Bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis David Diallo, je suis maître de conférence en études américaines à l'Université de Bordeaux. Et je tiens à vous remercier au nom de Mola d'être venu aussi nombreux ce soir pour écouter Ta-Nehisi Coates. Je tiens à remercier l'auteur d'être ce soir parmi nous pour venir discuter de son livre et la librairie Mola pardon, pour son invitation et l'organisation de cette conférence. Donc l'ouvrage du journaliste américain Ta-Nehisi Coates, Between the World and Me, a rencontré un succès considérable aux États-Unis. Il a obtenu le prestigieux National Book Award. Il est sorti la semaine dernière en français sous le titre « Une colère noire, lettre à mon fils ». Donc j'ai vu plusieurs personnes avec lui, vous l'avez vu à l'entrée. Le titre en version originale, « Between the World and Me »,« Entre le monde et moi », exprime la distance qui, d'après cet auteur, sépare l'idéal politique fantasmé de l'Amérique blanche, celle que Coates appelle le rêve, et la réalité vécue par les Noirs américains, bien différente. Une réalité historique marquée par une violence extrême. L'esclavage, la ségrégation, la répression systématique qui se poursuit aujourd'hui sous la forme de brutalité policière. Une justice sélective avec des condamnations disproportionnées auxquelles doivent faire face les Noirs pour des crimes équivalents commis par des Blancs. Et parfois très lourde. Cette violence, Coates nous l'explique, résulte de la politique du gouvernement, mais aussi d'une politique discriminatoire en matière de logement, mais surtout en matière de justice pénale aux États-Unis. Il y dissèque dans cet ouvrage le racisme sociétal, institutionnel et culturel qui caractérise les États-Unis depuis ses origines républicaines jusqu'à aujourd'hui, et également la stigmatisation forte dont les Noirs sont toujours victimes, auxquelles ils sont confrontés, notamment lorsqu'ils sont face aux forces de l'ordre, et au système judiciaire américain. Dans ce livre, « Lettre à mon fils », Coates s'adresse à son fils et le met en garde face aux risques inégaux que courent les corps noirs. Donc il est souvent question dans cet ouvrage de corps noirs. Au fil de cette lettre, Coates égrène la liste, forcément partielle, quand elle est longue, de ces Noirs qui ont été tués par la police américaine ces derniers mois. Le sujet résonne particulièrement pour lui car, avant cette série de morts, il y avait eu celle de Prince Jones, un de ses amis d'université, tué en 2000, par un policier, sans motif valable, alors qu'il n'était pas armé. Cette disparition révèle à ses yeux la persistance de certaines forces historiques aux États-Unis, qui condamnent les Noirs à être victimes de la violence blanche, quel que soit leur statut social. Des études universitaires, une mère médecin, le confort d'une vie aisée ne suffisent pas, nécessairement à protéger cette jeunesse noire. Sans justification ni mobile apparent, Jones est l'une des multiples victimes d'une violence abusive qui instille la peur et le ressentiment au sein d'une communauté noire qui est, depuis longtemps, victime de telles violences. En Amérique, la destruction du corps noir est une tradition, un héritage, écrit Coates. Le pays et sa population, qui s'imagine blanche, s'est construit sur cette destruction des corps noirs et le discours de domination raciale qui l'accompagne. En empruntant la forme épistolaire, l'auteur se rapproche de son lecteur et finalement ne parle pas seulement aux Noirs américains, mais universalise les questions de l'injustice aux États-Unis. Ce que d'ailleurs James Baldwin avait réussi à faire avec La prochaine fois le feu dans les années 60. Baldwin commençait son livre avec une lettre adressée à son neveu. Coates s'adresse à son fils. C'est ce qui nous donne une proximité avec l'œuvre de Baldwin, qui lui aussi écrivait combien les relations raciales aux États-Unis avaient atteint un stade critique durant de longues années et sans perspective d'amélioration. Une proximité, cette fois-ci dans le fond et non dans la forme, avec Derek Bell, qui dans Faces at the Bottom of the Well, les visages au fond du puits, pour représenter la place des Noirs dans la société américaine, explique que le racisme est un élément intégral, constitutif, permanent et indestructible de la société américaine. Le constat de Coates est pessimiste, dur, mais lucide, tant la crainte qu'il évoque se retrouve dans la prose ou les vers de nombreux auteurs, qui eux aussi, dans leurs écrits, leurs textes, leurs chansons, leurs discours politiques, aimerait que l'Amérique se regarde enfin dans le miroir, affronte son passé et confronte ses démons, pour mieux se projeter dans l'avenir peut-être. Coates n'y croit pas trop. S'il est question de colère, il est surtout question de crainte. L'idée de la crainte est omniprésente dans ce livre. Sauf lorsqu'il quitte le pays, en France par exemple, peut-être à Bordeaux, qui sait. Tout en ayant pleinement conscience toutefois du lourd passé colonial de notre pays et de ses effets. Au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture, on comprend le processus cognitif qui a conduit Coates vers l'idéologie du pouvoir noir, comme forme de résistance, pour dénoncer un pouvoir raciste. Lui-même un produit du mouvement pour le droit des Noirs, the Black Consciousness Movement, il explique « L'homme et la femme noire, dépossédés de leurs histoires par l'homme blanc, doivent combler ce vide avec une soif de connaissance, afin de comprendre les origines de cette violence. » Faire un état des lieux des relations noires-blancs aux États-Unis, comme il le fait à travers l'écriture. Donc, je l'ai dit, la prose de Coates est résolument pessimiste. Son discours est radical et direct, décomplexé, et met l'Amérique en face de ses responsabilités et rappelle que les injustices liées à la race sont toujours d'actualité en Amérique, où le sentiment d'une injustice omniprésente pèse sur les Noirs. Un exemple qui pourra choquer, mais également faire réfléchir. Coates évoque les coups de ceinture de son père, fréquents, sans pour autant les condamner. Ni ses coups de fouet, ses coups de ceinture, ni celui-ci. Un père qui avait peur de perdre son fils, car dans le quartier, tout le monde avait perdu un enfant à cause de la drogue, à cause de la prison, des armes, et qui préférait battre cet enfant plutôt que d'apprendre qu'il avait été tué sous les coups des policiers. Ce sont des choses sombres. Et en fait, l'aspect le plus radical de l'œuvre de Ta-Nehisi Coates est peut-être son manque d'espoir. Il rompt ainsi avec une forme de narration qui suit l'arc du progrès racial, l'inévitable triomphe de la justice, celui des écrits d'esclaves par exemple, ou des histoires d'élévation sociale, qui, comme le disait Wideman, nous plonge dans un optimisme fugace. Là où il y a le statu quo, qui empêche le reste de la population d'aller vers l'avant. « We shall overcome », chantait Martin Luther King. Coates ne partage pas cet optimisme religieux, ne croit pas nécessairement que les Noirs vaincront, ni au changement de Barack Obama. Cette élection a surtout renforcé l'idée selon laquelle le racisme constitue plus une barrière vers le progrès et l'égalité. Si cela était le cas, et que nous étions dans une époque aussi progressiste, comment expliquer les derniers cas de violence et de brutalité policière mis en lumière ces derniers temps dans les médias? Dans un livre intitulé « Histoire des Noirs aux États-Unis » que j'ai écrit il y a 2 ans, je concluais cet ouvrage par ces mots. 400 ans après leur arrivée sur le sol américain, plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage, 50 ans après la fin de la ségrégation, et après avoir vu de nombreux groupes d'immigrants arriver aux États-Unis et réussir leur intégration dans la société américaine, les Noirs restent résolument marginalisés, et l'Amérique bien loin d'être résolue à leur faire une place. Il n'y a aucune lueur d'espoir non plus chez Coates. Ce désespoir auquel le président Obama lui demanda un jour de ne pas céder est juste, c'est ce que Coates montre, le produit de son expérience. Comment croire à l'espoir lorsqu'on en a vécu ce que Coates a vécu et ce que des milliers d'autres Noirs ont vécu. Dans son livre, Coates montre comment la jeunesse noire des quartiers populaires, parfois ceux de la classe moyenne, sont tiraillés entre deux peurs, celle de la police d'abord, puis celle des bandes d'adolescents, décrites par David Simon dans The Wire, qui croient avoir trouvé dans le crime un moyen pour dépasser leur frustration, ou simplement pour joindre les deux bouts. Une même jeunesse décrite dans un monde de la rue, souvent glorifié dans la musique rap, mais examinée ici d'un point de vue différent, plus pessimiste, avec une plus grande lucidité peut-être, et moins de romantisme. Un sentiment récurrent d'enfermement, dans les rues du ghetto, telles qu'elles sont décrites ici. Cette méditation très dure, vous l'aurez compris, sur le racisme américain, est également extrêmement émouvante dans sa manière d'exprimer cette crainte, cette peur permanente ressentie par les parents, le père et la mère, d'enfants noirs pour leurs enfants. Des enfants noirs qui vivent dans une réalité parallèle, une autre Amérique. Loin du rêve, the dream. Du ghetto dont on peut savoir uniquement ce qu'il est et ce à quoi il renvoie sans y avoir vécu. La puissance de l'ouvrage de Coates réside dans le style épistolaire, certes, mais également dans le choix de l'écriture, qui décrit les émotions, l'introspection, beaucoup mieux que d'autres modes d'expression, que le visage d'un acteur, par exemple, même si c'est Denzel Washington ou Tom Hanks. Il est toujours plus simple, par la littérature, de plonger littéralement dans les pensées de l'auteur. La littérature permettant une intériorité narrative, une voix, des pensées profondes, parfois des pensées réprimées, comme ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre, où Coates explique avoir été presque insensible aux morts du 11 septembre, dans la distance entre son monde noir, celui des marchés aux esclaves du sud de Manhattan, et de ce qu'il appelle l'autre monde, était insurmontable. Coates explique à son fils et au lecteur que la violence d'autrefois persiste. Les temps changent, mais pas le racisme auquel les Noirs sont confrontés. Une situation étudiée en détail et en profondeur par de nombreux chercheurs en sciences sociales. Mais ici, Coates nous fait découvrir, avec une approche moins distanciée que celle des chercheurs, l'état des relations raciales aux États-Unis, où les individus à la peau noire courent beaucoup plus de risques de perdre leur emploi, de se voir refuser un prêt bancaire, d'être en échec scolaire, d'être condamné à des peines plus longues qu'un blanc pour un crime semblable, et d'être abattu par un policier. D'où cette crainte du père qui fait écho à celle des mères, et cette colère. Comme lecteur, j'ai lu cet ouvrage d'un trait, sans le reposer une seule fois, comme si j'en étais le destinataire. Le livre alterne, comme le titre en français l'indique, entre la colère, pour devenir parfois un peu plus analytique, puis introspectif, pour revenir ensuite à la colère. Par exemple, lorsque Coates dissecte cette longue histoire de violence et de brutalité, où chaque génération a ses Trayvon Martin, Eric Garner, Tamir Rice, et la relative impunité de ceux qui pratiquent cette violence. Tout au long du livre, le lecteur suit une narration linéaire où l'auteur explore l'idée de négritude, mais aussi les changements de priorité majeurs liés à l'arrivée d'un enfant. Le récit alterne entre l'extrêmement démoralisant et des passages, au contraire, stimulants, et vient compléter de belles manières la littérature sur le sujet. C'est en tout cas ce que semblent penser de nombreux critiques, même si le livre a ses détracteurs. Et la librairie Astoria, également, située à New York, dans le Queens, qui, à la sortie du livre, a pris une décision remarquable et un peu inédite. À la publication du livre de Coates, le libraire a eu un véritable coup de cœur. Et pour s'assurer que la communauté de lecteurs s'empare de l'ouvrage, il a décidé de vendre le livre au prix d'achat. Aucune marge, aucun profit. Et tout cela pour inciter les lecteurs à s'emparer de ce livre, le lire et le partager avec leurs amis. On ne va peut-être pas demander à Mola ce soir de faire la même chose. En tout cas, on peut les remercier à nouveau d'avoir fait venir cet auteur jusqu'à nous pour discuter de son livre. Merci. Donc, en 2000, le département de psychologie de l'université du Colorado a créé une simulation qui s'appelle The Police Officer Dilemma, où le joueur est confronté à des photos d'hommes noirs et d'hommes blancs, armés ou non armés, dans un décor complexe. Donc, le but de la simulation est pour l'officier de police de tirer ou de ne pas tirer. Les résultats de cette expérience de psychologie ont montré qu'il y avait un biais très fort vers les hommes noirs, sur qui les officiers de police ou les joueurs avaient tendance inconsciemment à tirer plus vite que sur un blanc, qu'il soit armé ou pas. Donc cette explication de psychologie individuelle, mais aussi de psychologie collective, montre combien votre propos est fondé. Il y a un biais, il y a un racisme larvé ou imprégné dans la société américaine qui fait que lorsque l'on voit un homme noir, on se sent en danger. Et on va tirer plus vite si l'on est un officier de police. Donc cela rejoint l'idée de danger pour les corps noirs dont vous parlez dans votre livre. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans les travaux universitaires. De nombreux chercheurs en sciences sociales, en criminologie, des juristes ont évoqué ce sujet. Comment expliquez-vous aujourd'hui la réception de votre ouvrage et le fait qu'on ait l'impression qu'il touche une corde sensible?
Well, I think it's important to note that, first of all, the amount of people who are actually reading things are a minority of the American population. So it's true that there's been a lot of...
Ok. Oui, je pense que, au fait, la plus grosse quantité de gens qui sont en train de lire mon livre, je parle pour vous, aux États-Unis, sont au fait des Afro-Américains.
So it's not as if, you know, there's been this grand success across the country.
You know, c'est pas une réussite tout à travers le pays.
Among the very small group of people who enjoy reading things, who enjoy, you know, reading books about politics, it has been a success. But I think, you know, it needs to be put in context, first of all.
Parmi un petit groupe de gens qui s'intéressent à la politique, à l'actualité, mais pour la plupart des gens, il faut mettre ce livre en contexte.
I think there's a second, you know, more important portion of that, you know, in which it needs to be put in context. The individual success of any individual African American has no real bearing on an actual system of racism.
La réussite de n'importe quel Afro-Américain individuel n'est pas reliée à la situation générale. Ça va?
Oui, ça va, merci. We've always had individual African Americans who've been, you know, more successful than, you know, most, or more successful even than white Americans.
And il y a toujours eu des noirs souvent mieux qui ont mieux réussi que la plupart des Américains blancs.
But that doesn't signify the end of racism.
Mais cela ne signifie pas la fin du racisme.
When Jackie Robinson integrated Major League Baseball, that did not mean that there was no more racism in Major League Baseball.
Quand le joueur de baseball Jackie Robinson a intégré une équipe blanche, c'était les Brooklyn Dodgers.
Exactement.
Ouais. Cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de problème de racisme dans ce club.
When Thurgood Marshall became the first black Supreme Court justice, that did not mean there was no more racism in the judicial system.
Quand Thurgood Marshall est devenu le chef de la Cour suprême, cela ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de problème dans le système judiciaire.
And when Pakistan had a woman as a head of state, that did not mean there was no more sexism in Pakistan.
Ouais. Et comme par exemple quand le Pakistan élit une femme, elle est quoi, présidente?
Oui, oui.
La présidente est femme. Cela ne veut pas dire la fin du sexisme au Pakistan, loin de là.
And so while I'm very pleased with the success of, you know, Between the World and Me, I'm very, very happy by that. There's nothing about that that contradicts the notion of systemic racism.
Je suis très contente de la réussite de mon livre, Entre le monde et moi. Personnellement, je trouve que ce titre est beaucoup plus beau que celui
aussi,
en français. mais cela ne veut pas dire que la situation de racisme que j'ai décrit a changé.
So if I take you back to the beginning of your question, where you started, where you pointed to the study where black people, whether they were armed or unarmed, were more likely to be shot.
Quand vous avez évoqué les travaux universitaires que vous venez de citer, où c'était plus possible qu'un noir soit fusillé qu'un blanc.
That's a systemic problem.
C'est systémique, c'est inhérent au système des États-Unis.
It's you know, the officers come to the job already thinking certain things about black people.
Les policiers viennent à leur emploi et déjà en tête, ils ont beaucoup d'idées préformées, des préjudices au sujet des personnes noires.
Des policiers noirs et blancs.
But that only proves that it's actually systemic. I mean, that doesn't...
Le fait que ça touche les policiers noirs aussi bien que les blancs, que eux aussi pensent que les hommes noirs sont plus dangereux, ne change rien. C'est le système.
In fact, it just makes my point. I mean, it's not about individual particular hatred. There's nothing that, for instance, keeps black people or forbids black people from assuming the same things about each other that white people assume about them.
Oui, il n'y a rien dans ce que vous venez de citer qui puisse changer le fait qu'au fait que les Noirs sont habitués ou sont conditionnés à penser les mêmes choses au sujet des Noirs américains que les Blancs. Vous OK?
Oui, c'est bon, merci.
OK, merci. Donc, il y a très peu de joie ou de bonheur dans votre ouvrage, à l'exception des passages qui relatent votre éducation à l'université de Howard, que vous appelez la Mecque.
La Mecque.
Yeah, it sounds great.
Donc ici, il me semble, vous allez à rebours de Malcolm X, que vous citez comme modèle, qui, lui, lors de son séjour à la Mecque, s'est déradicalisé, où il a découvert, en tout cas, ses positions sur le racisme ont changé, de même que sur la nation d'Islam. Alors que vous, dans votre livre, votre passage à la Mecque fait de vous une personne beaucoup plus consciente et vous donne une conscience politique plus radicale. Donc, est-ce que ce choix de la Mecque comme lieu de transition idéologique était délibéré ou c'est juste fortuit?
No, I think it's specific to... Well, are you asking particularly about the name or the place?
Oui.
I think that's coincidental. I mean, the name of it is coincidence.
Oui, le nom, au fait, le mec, c'est le terme que vous utilisez pour l'ambiance éclairée et stimulante de l'université Howard à Washington, D.C. Et alors que David vient de faire la liaison avec le voyage
à Mecque
de Malcolm X, alors que Malcolm X s'est déradicalisé, Monsieur Coates, vous avez commencé à connaître beaucoup d'écrivains qui vous ont radicalisé et vous identifiez avec le mouvement noir.
So the name, it was, I didn't create the name the Mecque or le Mecque.
That's how you call it there?
That was the tradition that I arrived at. And so it was only by coincidence that there was that Mecca. And then there was the Mecca of Malcolm X also.
D'accord.
C'est une coïncidence. C'était le nom donné par les étudiants à c'était le centre de un endroit à l'université où les gens se réunissaient. L'université entière, le nom donné par les étudiants à cette université. Et voilà, et c'est une entière coïncidence que c'est le même adresse qu'a visité Malcolm X.
Donc, ma question suivante porte sur la manière dont vous parlez des Blancs. Alors, moi, j'ai lu j'ai pas lu l'ouvrage en français, mais en version originale, c'est « The people who think they're white »,
oui,
les gens
vrai.
Qui pensent
oui.
qu'ils sont blancs.
Oui.
Est-ce que c'est traduit littéralement? Est-ce que c'est traduit comme ça?
Oui.
Les gens qui pensent qu'ils sont blancs. Donc, vous l'expliquez très bien à travers cette expression. La race est une construction discursive. Il s'agit d'un discours. La race n'a pas d'existence scientifique. Mais on trouve néanmoins dans votre ouvrage, donc vous parlez de les gens qui pensent être blancs, mais il y a quand même un essentialisme noir. Vous parlez du mouvement d'une conscience noire. En quoi les deux diffèrent d'après vous? Parce que, donc on a un processus discursif dans chaque occurrence, pour les Noirs et pour les Blancs, mais vous faites le choix de parler, en tout cas de mettre en évidence le processus des Blancs ou des personnes qui pensent être blanches. Et est-ce que ce processus est différent pour les Noirs?
Well, in America, we have the notion that Black and white people are somehow two versions of the same thing, as though they're two sides of the same coin.
En Amérique, on a l'idée que, d'une manière ou d'une autre, les hommes blancs et les hommes noirs sont les deux faces de la même chose, au fait, qu'il n'y a pas d'identité essentielle à chacun.
Well, and the problem is that's not exactly true. For white people in America, for the people who believe that they are white, as I argue in the book, that's a racial identity. But for Black people in America, Black is a racial identity and an ethnic identity also.
En Amérique, Monsieur Coates croit que cette identité pour les Blancs, leur identité, leur foi en leur blancheur, et raciale, alors que pour les Américains noirs, il s'agit non seulement d'une identité raciale, une couleur de peau, mais aussi une identité ethnique.
And in America, race is all about power. That's it. It's just the organization of power. There's nothing else to it.
Et en Amérique, c'est très simple. La race, c'est le pouvoir. Le pouvoir d'organiser autour de concepts de race.
But for black people, when I say I'm black, it does not just signify a lack of power. It also signifies the music I listen to, the food I was raised on, my particular relationship with my wife, the language we share between each other, the heritage that we share between each other.
Mais quand je m'identifie comme un homme noir, ce n'est pas simplement la couleur de ma peau, c'est le langage que j'utilise, la nourriture qu'on m'a donnée quand j'étais enfant, les recettes qu'utilisait ma famille, ma relation avec ma femme, le langage que nous utilisons entre nous.
C'est
ma culture.
But if you're white, there are cultures beneath being white. For instance, one can be Irish American, Jewish American, identify with being Southern, for instance.
Alors qu'il y a des sous-catégories chez les blancs, on peut être Irlandais américain, Juif américain, Arménien américain, et ainsi de suite. But donc il y a plusieurs ethnies, il n'y a pas simplement une couleur.
But white in and of itself is not an ethnic group, and this is like the key problem with racism in America, because if racism goes away, the whole identification of white goes away too.
Mais ça, c'est le problème aux États-Unis, parce que s'il n'y a plus de racisme, la notion même de la blancheur et son privilège disparaît.
Exactly, exactly. And without that, you know, white Americans, or people who believe themselves to be white, you know, they face a problem of identity. It's ultimately rooted in racism.
Les gens, je ne suis pas sûre de vous avoir compris en anglais.
I wonder if you
could say it again. C'est-à-dire, could you repeat it?
So if you're white in America, you ultimately have anti-racism poses a problem of identity. Because if the racism goes away, your identity goes away, which does not mean your blonde hair goes away or your blue eyes go away, but the identification of being white goes away, which is not the same as those two things.
OK. En Amérique, le fait d'être blanc est plus qui plus est de se croire blanc, de se prendre pour blanc, donc automatiquement privilégié, dépend du racisme. S'il n'y avait pas des noirs, on ne serait pas blanc à ses propres yeux.
Oui, exactement. C'est mieux que moi.
En écoutant votre réponse, j'ai pensé à un écrivain, alors je vais l'appeler écrivain américain, Percival Everett, qui, dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans Erasure, parle d'un écrivain, un professeur d'université, African American, qui écrit sur les écrivains grecs de l'Antiquité et qui retrouve systématiquement ses livres dans la catégorie African American Writers, alors que alors il ne rejette pas son identité. En revanche, il regrette le fait que sa couleur de peau soit une étiquette systématique. Donc on a qualifié cet auteur et d'autres d'écrivains post-raciaux. Comment considérez-vous cette posture et leur position? Est-ce que vous pouvez la comprendre?
The identity of post-racial.
Non, la posture, le positionnement d'auteur qui rejettent l'étiquette d'écrivain noir américain, mais qui veulent uniquement l'étiquette d'auteur américain.
Je comprends. Yeah, I got it.
A black author, yeah, who writes about Greek,
right,
civilization.
I mean, that's his choice. That's his choice.
No, but the thing is that his books are classified in the bookstores under black writing instead of Greek civilization.
I understand. Okay. He writes about Greek, that's what he writes about?
Yeah.
I have no problem with that at all.
No.
Ça vous semble naturel.
I feel like I'm missing the core of the question.
David is saying that this what's his name, Percival something?
Everett. Percival Everett.
Percival Everett. He's an Afro-American, right, who writes about Greece.
Right.
Instead of his books being on the shelves marked books about Greece,
gotcha,
they're in books by black authors.
Gotcha. Okay, I do have a problem with that. Sorry, I misunderstood. I mean, that's just the bookstore being lazy.
C'est la librairie qui manque d'énergie.
That's all that is. I mean, that's just laziness.
Oui. Donc, voilà. C'est la faute à la librairie.
OK.
Ils n'ont pas fait l'autre.
Donc, cette lettre, votre livre, est une invitation à la lutte. On retrouve à plusieurs reprises le mot struggle, oui. de combat. Mais sous quelle forme ? Pas par la non-violence, selon vous. Vous parlez du combat de Martin Luther King. Et vous dites, lorsque vous étiez jeune, vous en aviez marre de voir des personnes qui se faisaient taper sans réagir à la télévision, alors qu'il fallait vous seriez levé pour rendre les coups. Ni la violence. La violence, est-ce que la violence est une solution? On a vu dans les années 70 la répression forte envers les Panthères Noirs et d'autres groupes radicaux. Donc, quelle solution possible ou quelles sont les modalités du combat que vous envisagez?
I don't know.
Je ne sais pas. J'ai aucune idée.
I don't know. And I'm sure you noticed this. There's a line at the end of the book. It says, you know, we are captured, brother.
We are what?
Captured. Captured, brother.
Les frères en captivité.
Oui. And the point is, we're trapped.
C'est un piège.
If I could just back up a little bit. The role of a writer...
On revient en arrière. Un petit peu.
The role of the writer is different than the role of the activist.
Le rôle de l'écrivain est différent de celui de l'activiste, militant.
I'm not an activist. My job is to look at the world and try to speak as frankly about the world as I can.
Je ne suis pas un militant. Mon rôle, c'est de regarder le monde et d'en écrire avec autant d'honnêteté que possible.
Activists have a different role. They have to use in America, the English language, or in another country, you know, whatever the language is here in French, the French language, in order to organize people to try to actually affect some sort of change in the world.
Les militants, leur rôle, c'est d'organiser les gens et d'utiliser n'importe quelle langue, le français, l'anglais, ça dépend de là où ils sont, pour changer le monde.
And they have to believe the change is possible.
Et pour eux, il faut croire que le changement est possible.
I don't have to believe that.
Lui, en tant qu'écrivain, rien ne l'oblige à croire ainsi.
And I think, you know, I don't say that, you know, as you say, as a pessimist necessarily.
Et je ne le dis pas en tant que pessimiste, pas forcément.
I say that looking at, you know, significantly older countries in the world that have struggled with what is essentially the same problem that we struggle with in America, and that is the problem of power, the abuse of power, the societal abuse of power.
Bon, je regarde des autres pays dans le monde qui ont confronté le même problème que nous en Amérique, c'est le problème du pouvoir, simplement.
Oui. How long were the countries in Europe anti-Semitic? What is the history of that? How long is that history?
Ah, quelle est l'histoire de l'antisémitisme en Europe, par exemple? Depuis combien d'années existe-t-il?
What makes America a country that's founded, literally founded on white supremacy, founded on it?
Qu'est-ce qui fait que l'Amérique est un pays vraiment qui est essentiellement fondé sur la suprématie blanche?
Any different?
En quelque sens différent que cette histoire de racisme et de préjugés en Europe.
I would like to live in a world in which there's a solution. I really hope there is.
J'aimerais habiter un monde où il n'y avait pas de racisme. J'espère vraiment que ça puisse exister.
But I think without some sort of external motivation, by which I don't mean like the things that actually black activists do, but until it becomes in the interest of people who believe they are white to not believe they're white, voilà, I don't know what happens.
Okay. Mais jusqu'au jour où ça devient une question d'intérêt personnel, de leur self-interest, de leur sens de survie pour les gens qui se croient, qui se prennent pour les blancs, qui se targuent d'être blancs et qui trouvent que c'est à leur intérêt de se croire noir, je crois que les choses ne changeront pas.
Donc j'ai parlé des Panthères Noirs et de votre pensée radicale. Assez curieusement, dans le livre, vous parlez beaucoup de race, du corps noir, mais très peu de classe.
Oui.
une des solutions, alors je ne sais pas si c'est véritablement littéralement une bonne solution, mais le fait que le progressisme de la cause noire, l'égalité des droits, les droits civiques, ait réussi à avancer par le combat légaliste, un combat, une avancée de petits pas, montre combien la mobilisation collective, lorsqu'on prend une trajectoire au centre, pas trop dans les extrêmes, permet de faire des petits pas et d'avancer un peu. En revanche, on a vu la répression très forte envers les panthères noires et leurs idées radicales et socialistes. Et également, certaines personnes disent que Martin Luther King aurait été abattu au moment où il réfléchissait à unir à la fois les gens qui se battaient pour une égalité raciale et les gens qui se battaient pour une égalité sociale. Est-ce que vous pensez qu'une voie à explorer pour mettre fin au racisme aux États-Unis est peut-être la voie du socialisme?
I think, in fact, the Panthers are in a long line of people who've looked at the problem exactly like that. That, you know, you know, to find some way to marry the problem of race to the problem of class. That pretty much is the history of, you know, left social justice movements in America. The Panthers don't really stand out from that perspective.
Oui, je pense que oui, l'histoire des droits civiques, les avancées progressives ont été dues à des gens qui ont lié la cause, la race, le concept de race à la concept de classe de manière à aller vers une égalité sociale.
And yet there's an unfortunate history in America where you see class interests being advanced at the expense of black people, be they lower class, upper class, working class, or whatever.
Et quand on voit pourtant en Amérique, je vous ai pas compris.
Oh, that's okay.
Excusez-moi.
Basically, you see the interests of white people, regardless of class, being advanced at the expense of black people, regardless
of class. Les intérêts, on perçoit que les intérêts des blancs sont souvent avancés en allant à l'encontre des intérêts des noirs.
Exactement. And for me, like the biggest example of this, the great victory in the 20th century for the left in terms of government policy was the New Deal.
Et pour moi, le plus grand exemple de réussite dans ce sens, je n'ai pas compris, vous parlez pour ou contre le New Deal?
Pour.
Oui, je pense que le mouvement, enfin le phénomène le plus marquant au XXe siècle, allant dans le sens d'une plus grande justice et égalité, c'était le New Deal de Franklin Roosevelt, entre 32 et 44.
The problem is, though, when you look at how the New Deal was actually advanced, you see that it was literally advanced on the basis of white supremacy.
Mais il était basé sur l'idée de la suprématie blanche.
And so there are a series of programs that were, you know, put in through the New Deal that was effectively built the middle class in America, in which black people were systematically cut out of.
Ces programmes du New Deal ont systématiquement construit une classe moyenne en Amérique, d'où les Noirs étaient exclus.
And it's more severe than that. Those programs wouldn't have passed if they hadn't excluded black people. It was necessary that black people be excluded for them to happen.
Ces programmes, ces lois n'auraient pas été passées si elles n'incarnaient pas ce principe de suprématie blanche et si elles n'excluaient pas les Noirs de leurs bénéfices.
So it's not me that needs to integrate class politics into my analysis of racism.
C'est pas moi qui a besoin d'intégrer la politique de classe dans mon programme.
It is those who, you know, for over a century now, have pushed this idea of class interests as a way of combating racism, who need to integrate a serious anti-racist policy into their interpretation of America.
Bon, ils pensent que combattre le racisme, j'ai encore...
Désolé.
En fait, c'est très compliqué parce que j'ai okay. été élevée démocrate
oui,
dans le respect.
C'est ma faute.
Je n'accepte pas.
It's not... So the question was, is there a way forward that integrates some sort of class critique into a critique of racism?
Ok. Est-ce qu'il y a un moyen d'avancer qui intègre dans une politique de anti-racisme à une politique d'anticlassisme, c'est-à-dire qui lutte en faveur d'une classe moyenne mixte.
Exactement. C'est presque. Mais c'est bon. But for me, the question actually is, those who advance a class critique need to integrate an anti-racist critique. It's not my responsibility to do that. I'm not the one that's falling down. I'm not the one. It's not those of us who preach anti-racism who've missed the point.
Okay. Ceux qui adoptent des politiques anticlassistes ont besoin d'intégrer à leur pensée un programme antiraciste. Ça, c'est pas mon job. Ok.
Donc on va s'arrêter là.
Merci.
Bon, merci beaucoup, on va s'arrêter ici.
Merci.